marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire nous aide à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Les comités Maurice Audin.
Je voudrais rappeler que ce jeune assistant d'université français, arrêté le 11 juin 1957 à Alger, que sa mort, son assassinat, a été transformé. Nous avons tous les moyens de le prouver, nous avons toujours eu tous les moyens de le trouver. Son assassinat a été transformé en une tentative d'évasion, qu'une série de faux ont été commis, à la fois sous la responsabilité de l'armée française en Algérie, couvert par le gouvernement français de l'époque, couvert par les gouvernements français qui ont suivi. Car nous n'avons jamais eu la possibilité de faire éclater à aucun moment la vérité à propos de Maurice Audin.
Madeleine Robert-Youx, qui fut la directrice de mémoire de notre invité qui sourit, François Dos. La semaine passée, dans le modeste appartement de la veuve de Maurice Audin, se déroulait une scène exactement symétrique de celle qui était décrite par Madeleine Robert-Youx et qui s'était passée à Alger, donc le 11 juin 1957. Ce jour-là, des militaires pénétraient dans le HLM où vivait la famille Audin. Ils arrêtaient Maurice devant Josette et leurs trois enfants. La semaine passée, à Bagnolet, c'est assise dans un grand fauteuil que Josette Audin a reçu Emmanuel Macron, qu'on avait installé plus bas dans un canapé. Le président s'était fait accompagner de l'amiral Rogel, son chef d'état-major à l'Élysée. Pierre, l'un des trois enfants Audin, se tenait à leur côté, très vigilant. Emmanuel Macron avait auparavant rédigé une déclaration où il disait qu'en échouant à prévenir et punir l'usage de la torture en Algérie, les gouvernements successifs avaient mis en péril la survie des hommes et des femmes dont se saisissaient les forces de l'ordre. Il avait annoncé aussi une dérogation générale ouvrant une libre consultation sur tous les fonds d'archives de l'État qui concernent ce sujet. Pierre Mansa était aussi présent à Bagnolet. Il préside une association Maurice Audin, lointaine descendante du premier comité Audin qui se constitua dès 1957. Si Audin n'a jamais été oublié, il le doit à sa famille, évidemment, au Parti communiste qui en a fait un héros d'une éternelle jeunesse, mais aussi aux comités successifs qui lui ont conféré un statut symbolique. De nombreux mathématiciens ont fréquenté ces comités, ils témoignent d'un milieu spécifique, mais le premier rôle a été tenu par les intellectuels et au premier chef des universitaires, peu dépendants des partis, à moins qu'ils n'en aient constitué un à eux tout seuls, le parti de la morale. Les comités Audin n'ont pratiquement disposé que de l'écrit, le texte écrit, la plainte déposée en justice. Ils n'ont jamais pu atteindre le plus vaste public, à la différence des défenseurs du capitaine Dreyfus, dont ils se voyaient les continuateurs. Mais ils ont maintenu la flamme, permettant sans doute l'aboutissement qui est venu, encore plus tard que pour Dreyfus, au bout de 61 ans.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter.
François Dos, bonjour.
Bonjour.
Ancien élève donc de Madeleine Robert-Youx.
Absolument, à Paris 8, Vincennes.
On disait, c'est Pierre Vidal-Naquet, dont vous préparez la biographie, qui disait cela, quand Madeleine Robert-Youx entre dans une affaire, elle est différente après qu'elle est passée. Alors, vous venez de publier deux volumes, La saga des intellectuels français, c'est chez Gallimard. Il y a eu une très belle page de Jacques Julliard dans le Figaro concernant ce livre et aussi pas mal de commentaires ironiques dans la presse, allez, qu'on va dire de droite, mais qui est quand même assez nombreuse aujourd'hui, suggérant que pourquoi faire la saga des intellectuels français, ils se sont si souvent trompés.
Oui, bah là, effectivement, sur l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, celle de Maurice Audin, on peut pas dire que ces intellectuels se soient trompés. Au contraire, ils ont été dans leur posture, qui est effectivement une tradition française depuis très longtemps, avant même la Révolution française, qui est cette posture d'indignation morale, d'éthique, de quête de la vérité contre la raison d'État. Alors, c'est pas toujours, effectivement, la posture intellectuelle. Il y a d'autres postures, mais celle-là est très importante.
Je peux citer Chateaubriand, puisque vous remontez évidemment loin dans le temps, lorsque, dans le silence de l'abjection, on n'entend plus que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur. Lorsque tout tremble devant les tyrans, l'historien paraît, on pourrait dire l'intellectuel, chargé de la vengeance des peuples.
Absolument, c'est une phrase qui a accompagné toute sa vie Pierre Vidal-Naquet, dont le père lui a fait découvrir cette phrase de Chateaubriand et qui a été vraiment la devise de sa vie, on peut dire, se lever contre l'abjection. Et on peut dire que on a entendu là Madeleine Rébériou, historienne, Pierre Vidal-Naquet, on va y revenir, a joué un rôle absolument fondamental dans toute cette histoire, et les mathématiciens,
alors, vous le disiez,
c'est-à-dire que les mathématiciens en posture d'intellectuel, je ne les différencierai pas de la figure de l'intellectuel qui se lève pour faire valoir la vérité.
En tout cas, les collègues mathématiciens et Laurent Schwartz, qui était beaucoup plus âgé que le jeune Maurice Audin, ont tenu, 6 mois après la disparition de Maurice Audin, à organiser une soutenance de thèse d'un genre particulier, peut-être unique, en l'absence, in absentia, dit l'alma mater, du doctorant.
Mon mari devait soutenir sa thèse. Sa thèse était pratiquement finie quand il a été arrêté. Quand Laurent Schwartz a été au courant de ce qui s'était passé avec les autres enseignants de la Faculté des sciences de Paris, ils ont voulu faire quelque chose. Et René de Possel, qui était le directeur de la thèse de mon mari, leur a suggéré l'idée que la soutenance ait lieu en l'absence de mon mari, in absentia, comme on dit. Et elle a eu lieu effectivement le 2 décembre 1957 à la Sorbonne. Et donc c'est René de Possel qui a fait part des travaux de mon mari et il a été déclaré docteur en sciences. Donc voilà. C'est une manifestation qui a eu quand même un certain impact.
À laquelle assistait, j'imagine sa tête, François Mauriac. François Mauriac a une thèse de doctorat en sciences.
Oui.
Les 4M d'ailleurs, dites-vous dans votre livre, François Doss, Massignon, Mandouze, Mauriac et Henri-Irénée Maroux, qui a été un des tout premiers à protester dans le monde dès avant l'affaire Audin contre la torture. Et le ministre Maurice Borges Monory disait, mais enfin, on a mis du papier dans, des ordres dans les papiers de ce cher professeur, quelle importance. Chers professeurs.
Absolument. Alors, il est vrai que parmi les 4M, comme on les appelle, et c'est un petit peu aussi un point auquel je tiens de ma saga des intellectuels, c'est que souvent les intellectuels chrétiens ont été marginalisés dans l'histoire des intellectuels, car certains estimaient qu'on était intellectuel à partir du moment où on était non-croyant, athée. Or, et notamment par rapport à la guerre d'Algérie, les intellectuels chrétiens se sont élevés du point de vue de la morale contre l'usage, la pratique de la torture de manière extrêmement importante. Vous avez là toute une série d'organes de presse. Je pense à Témoignages chrétiens, à la revue Esprit, Témoignages chrétiens dirigés par Mandouze. On joue un rôle tout à fait majeur dans l'indignation, la mobilisation. Et en effet, soutenance tout à fait exceptionnelle de cette soutenance in absentia de Maurice Audin en Faculté des sciences de Paris, parce que vous avez là pour une thèse très ésotérique de mathématiques sur laquelle, effectivement, François Mauriac ne peut rien comprendre. Vous avez là 1000 personnes, quand même. C'est-à-dire que vous avez un public incroyable de 1000 personnes et un François Mauriac qui en rencontre dans son bloc-notes, qui est, comme vous le savez, à l'époque,
dans l'Express,
on touche là la question coloniale. Il est passé du Figaro à l'Express, chez JJSS et Françoise Giroud, sur la question du Maroc, et sur la création du comité France-Maghreb, car il était indigné de la manière déjà dont pratiquait le pouvoir au Maroc. Et comme il disait avec humour, il a dit à Françoise Giroud, vous comprenez, je suis un chat, et comme tout bon chat, je choisis ma litière.
Alors, de grands maîtres, de beaucoup plus jeunes gens vont constituer un comité. Audin, Michel Crouzet, Jacques Panigel,
le jeune Montagnier, qui sera quand même prix Nobel de médecine en 83, qui est l'inventeur qui a découvert le VIH, qui est le virus du sida.
Enfin, on va dire
la jeunesse du comité Audin est partie d'une pétition nationale qui a été lancée, alors, par des universitaires. Là, c'est aussi un point fort de cette mobilisation universitaire, communiste. Michel Crouzet, qui est un littéraire spécialiste de Stendhal, Luc Montagnier, et il se trouve que l'historien, jeune aussi, très jeune, Pierre Vidal-Naquet, reçoit d'un collègue prof d'anglais au Prytanée militaire de La Flèche, qui s'appelle Jacques-Fernand Cahen, un collègue de Jean-François Lyotard, on a là un peu le réseau Lyotard, vous voyez, socialisme ou barbarie, une initiative où Cahen dit « j'ai envie, hein, j'ai pris contact avec Josette Audin, il faut lancer un comité pour la recherche de Maurice Audin. »
Alors, Vidal-Naquet, il a écrit au Monde aussi, Josette Audin l'a repéré notamment à cause de cela, et il est à ses côtés quand se tient une conférence de presse, à peu près concomitante à la soutenance de la thèse, c'est la... À la closerie des Lilas. Ah, les chers professeurs vont à la closerie des Lilas, dirait le ministre Bourgès-Monory. Le témoignage d'une autre autorité, un homme beaucoup plus âgé que Vidal-Naquet, mais spécialiste de l'histoire grecque lui aussi, Jean-Pierre Vernant, compagnon de la Libération.
Il se trouve que, à cette conférence de presse, j'étais avec Louis Gernet. Et on est sortis de la closerie des Lilas avec Vidal. Et pourquoi ça ne manque pas d'un certain intérêt, en dehors de l'anecdote? Parce que de quoi nous avons parlé? Nous avons parlé des affaires algériennes. On a parlé à la fois des affaires algériennes, de l'affaire Wadroudin, de la torture, et de tous ces problèmes, Gernet, Vidal et moi. Et en même temps, Vidal m'a signalé qu'allait paraître dans un périodique spécialisé un article de lui, qui devait s'appeler, je crois, « Tant des dieux » étant des hommes, qui était un des premiers articles qu'il avait voulu faire sur les problèmes de la tragédie antique. Or, le hasard faisait que dans la même publication, à la même date, sortait un article de moi, cette fois, sur des problèmes analogues qui devaient s'appeler, j'ai oublié, mais je crois que c'était le moment historique de la tragédie en Grèce.
Ce n'est pas un hasard si ces deux hommes qui s'intéressent à la tragédie en Grèce, c'est leur... spécialité. L'histoire grecque s'intéresse aussi à la tragédie algérienne. C'est leur militantisme.
Oui, là ils vont se retrouver. Enfin, la relation extrêmement amicale, ce sont deux quasi-frères, Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, ils vont se retrouver, évidemment, renouveler complètement l'étude de la Grèce archaïque et classique, travailler sur mythes et pensées chez les Grecs, sur la tragédie, et avoir le souci de l'histoire du temps présent, de l'action citoyenne. Vernant, quand il rencontre Vidal-Naquet, est un héros de la résistance. C'est lui qui a libéré Toulouse. C'est l'aîné, comme vous l'avez dit. Vidal est plus jeune, mais il va passer sa vie à s'engager. Et cette pulsion d'engagement dans la cité, il le tient, évidemment, surtout, on n'a pas le temps de la développer, mais du fait que père et mère... ont été conduits à Auschwitz alors qu'il était gamin. Et donc, ils vont se retrouver dans cette conférence de presse. Effectivement, Vernant amenait celui qui a été un peu son maître, il a deux maîtres, hein, Vernant, Gernet, grand helléniste, et Meyerson, sur la psychologie historique. Et Gernet déclarera dans cette conférence de presse qu'il préside, il y a désormais une affaire Audin comme il y avait une affaire Dreyfus. Et là, vous avez la connexion, évidemment, Dreyfus-Audin, qui va être absolument majeure durant toutes ces mobilisations.
Connexion que ne cessera de faire Pierre Vidal-Naquet.
De même qu'un révolutionnaire doit faire la révolution, un historien doit produire de l'histoire. Et où et comment intervenir? Et c'est là qu'est survenu ce qui a été pour moi un peu l'affaire Dreyfus de ma génération. C'est-à-dire l'affaire Audin, non pas l'affaire Audin en tant que telle, ou seulement en tant que telle, mais l'affaire Audin en tant que symbole de la torture. Que faire? De cette affaire, écrire l'histoire, c'est-à-dire essayer de se procurer les documents, dégager toutes les contradictions et en tirer quelque chose. Et mon modèle, ça a été un livre de Jaurès, qui s'appelait « Les preuves » et qui avait été écrit pendant l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire une sorte de décomposition de la thèse officielle, qui était celle que Maurice Audin s'était évadé le 21 juin 57, de montrer que c'était une impossibilité matérielle et morale, et en même temps d'essayer de démontrer la réalité, c'est-à-dire que Audin était mort au cours d'une scène de torture.
Pierre Vidal-Naquet avec Gérard Gromaire à voix nue, France Culture. À Josette Audin, Pierre Vidal-Naquet dit « Je fais une sorte de travail de juge d'instruction. Je sais que vous avez raconté 10 fois, 100 fois la scène de l'arrestation. Essayez de me donner toutes les précisions imaginables. »
Absolument. Alors, effectivement, comme il le dit, il va réagir en historien. Et il a dit à Josette Audin « Je peux vous aider et je mets en avant... » non pas mes convictions idéologiques, non pas le fait que je suis contre la guerre d'Algérie, mais le fait que je suis agrégé d'histoire. Et, curieusement, et c'est assez rare, sur la couverture du livre qu'il va faire paraître aux éditions de Minuit, vous avez Pierre Vidal-Naquet, agrégé d'histoire. C'est-à-dire qu'il met en exergue cette compétence. On pourrait revenir sur la figure, on y reviendra peut-être, de l'intellectuel spécifique tel que Foucault le définit. Mais il s'inscrit comme effectivement intellectuel spécifique. Est-ce qu'il va faire valoir sa compétence professionnelle pour la défense de cette cause ? Cette cause, c'est-à-dire de trouver des preuves. Et là, il y a une analogie qui a été aussi menée par un Carlo Ginzburg entre le juge d'instruction et l'historien. Dans la recherche de l'enquête, des preuves. Et il faut aussi souligner le rôle, alors majeur dans ce livre qui aura un grand poids à terme, de Jérôme Lindon.
Le patron des éditions de Minuit.
Le patron des éditions de Minuit.
Qui avait déjà, qui publie la question d'Henri Alleg.
A publié la question d'Henri Alleg, qui va publier l'affaire Audin, mais il va faire plus que le publier. Grosso modo, Vidal dira que ils auraient dû le co-signer, et pour l'essentiel de l'écriture, c'est Lindon. Et lors de des reparutions, vous savez que ce livre reparaîtra notamment en 1989, François Gèze voudra le republier à la Découverte. Lindon sera contre parce que c'est un peu son livre, d'une certaine manière.
Ce livre,
c'était très intéressant parce que là, j'ai pu voir la correspondance entre Josette Audin et Vidal-Naquet. Et vous avez là une posture, vous l'évoquiez là tout à l'heure, où il va changer de pied durant la gestation de ce livre Vidal-Naquet. Dans un premier temps, il fait appel à Josette Audin en lui disant « Racontez-moi ce que vos souvenirs, très précisément, première version, deuxième version, troisième version. Votre témoignage est le plus précieux dans ce dossier. » Et petit à petit, il va se substituer à Josette Audin et dans le résultat final, le livre, vous ne trouvez que la prose de Vidal-Naquet, qui se pose là, non pas comme le dirait Rancière, pour prendre la parole des autres, non, qui se pose en homme de science, en historien, celui qui dit le vrai, qui cherche le vrai.
Mais, vous nous racontez la saga du livre « L'affaire Audin » de Vidal-Naquet, il a le tort de paraître le 12 mai 1958.
Très mauvaise date.
Coup d'état des militaires à Alger le 13 mai, crise de régime. Je vous propose d'écouter le 31 mai dans une conférence de presse à l'hôtel, je ne sais pas à quel hôtel d'ailleurs, une conférence symétrique de celle du général de Gaulle à l'hôtel d'Orsay. Je vous propose d'écouter Jean-Paul Sartre, qui ne faisait pas partie précisément du comité Audin et dont le style est peut-être différent de celui du comité Audin.
Comment pouvons-nous concevoir, 15 ans après l'occupation allemande, qu'on puisse faire crier un homme en notre nom ? Mais c'est oublier que la torture est l'instrument indispensable du colonialisme, puisque, pour demeurer, le colonialisme doit nécessairement refuser les droits de l'homme à des hommes qu'il maintient de force dans un état de misère et d'ignorance, ou comme le dit Marx, dans un état de sous-humanité. Et nous savons que la torture vise bien moins à obtenir des renseignements, à faire parler à un homme, qu'à lui faire rendre par la gorge toute son humanité. Nous pouvons regarder la vérité en face et nous déterminer, chacun en notre âme et conscience, soit pour condamner publiquement les crimes accomplis ou les endosser en pleine connaissance de cause.
Vous qui êtes agrégé d'histoire, vous ne trouvez pas ça étrange que ça ait été enregistré, cette conférence de presse ? Alors que celle du comité Audin ne l'a pas été. Vidal-Naquet dirait il y a malice là. En fait, c'est une fiction. Et on croit que c'est Sartre et c'est Podalydès.
Ah d'accord.
Hein, il faut toujours chercher plus loin. Alors, c'est pas le même style que le comité Audin, parce qu'on a dit que c'était une affaire de style, le comité Audin. Il y a un travail d'un étudiant de Normale Sup de Lyon, François-René Julliard, qui parle du style du comité Audin. Les autres comités anticolonialistes qu'on voulait retrouver autour de Sartre avaient un autre style.
Oui, il y avait effectivement deux positions très différentes qui ont été d'ailleurs thématisées par Vidal-Naquet. Il a dit que par rapport à la guerre d'Algérie, vous avez trois postures, trois idéal-types, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais il y a l'intellectuel Dreyfusard, dans lequel il se reconnaît, dans lequel le comité Audin se reconnaît. Il y a l'intellectuel anticolonialiste, contre le système colonial. Et puis, il y a la posture de l'intellectuel bolchevique qui pense révolution de 17. Quand on pense à Reberiou, elle est les trois. Hein. Donc, c'est vous dire que on peut difficilement séparer les choses. Mais en tout cas, pour ce qui est de Sartre, dès le départ, les temps modernes, Sartre a une position dès la libération qui est une position extrêmement ferme, radicale, contre le système colonial. Alors, ça ne veut pas dire qu'il soit en contradiction avec le comité Audin. Il salue d'ailleurs, dans la conférence de presse dont vous avez parlé, le travail de Vidal-Naquet au niveau de la diffusion nécessaire de la vérité, hein, de ce scénario de l'évasion qui est évidemment à l'heure. Mais il va, dans ces années 50, insister sur un engagement anticolonial. Il faut se rappeler que Sartre fait un compagnonnage avec le Parti communiste de 52 à 56, qu'il va être très déçu puisque 56, c'est le moment avec la répression de la révolution hongroise où il rompt radicalement avec le Parti communiste, et il va trouver dans le combat anticolonial, lui, mais beaucoup d'autres intellectuels, vont trouver, à partir du milieu des années 50, une espérance qui va se décentrer vers les tropiques, qui va passer d'ailleurs de l'anticolonialisme au tiers-mondisme. Et vous avez là un Sartre, oui, qui a une position différente de celle du comité Audin classique.
Je renvoie, pour la différence de style entre le comité Audin et le manifeste des 121, qui sera signé en 1960 par ceux qui proclament le droit à l'insoumission et le droit de porter des valises pour le FLN, je renvoie aux pages de la saga des intellectuels français. Le comité Audin va cesser ses activités, le premier des comités Audin, avec l'indépendance algérienne.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Mes bien chers frères, c'est avec fierté et émotion qu'au nom de l'exécutif provisoire algérien, en ces premières heures de l'indépendance nationale, l'honneur et la fierté de vous accueillir sur le sol de la patrie que recouvre aujourd'hui l'ombre de notre drapeau. Mes chers frères, soyez les bienvenus. Vive l'Algérie indépendante.
Abderrahmane Farès, l'été 1962. 1962, première mesure d'amnistie, je parle maintenant du côté français, il y en aura d'autres dans les années qui suivent, jusqu'en 1968, à tel point que les crimes commis dans les opérations de maintien de l'ordre, et ceux de l'OAS aussi, seront effacés de la mémoire judiciaire. Les membres du comité Audin ont pourtant été la cible de l'OAS. Il y a même eu une tentative d'enlèvement du fils de Laurent Schwartz. Et il n'y a plus grand-chose à faire, semble-t-il, d'un point de vue juridique, d'autant que les années courent et que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre peuvent bénéficier d'un caractère imprescriptible à mesure qu'ils s'éloignent. Il va y avoir quand même quelque chose qui va avoir de l'importance, c'est en l'an 2000, la relance du débat sur la torture à la suite du témoignage dans Le Monde. Le Monde a toujours été très sensible à ces questions-là.
Bien sûr, mais avant même le témoignage de Louisette Aiguilaz-Riz dans Le Monde de 2000, il y a effectivement un retour, on assiste à un retour du refoulé. Comme toujours, quand il y a mauvaise gestion mémorielle, le retour est fracassant. Et Vidal-Naquet a été d'ailleurs étonné de ce retour. Il ne pensait pas le vivre. Il eût été d'ailleurs très heureux, hein, de la décision d'Emmanuel Macron de ce mois-ci. Mais il le vit à partir de 1998, lors du procès Papon. C'est-à-dire qu'on a là un télescopage de deux mémoires au moment du procès Papon, poursuivi pour deux sinistres affaires, que sont d'une part ses responsabilités comme secrétaire général de la préfecture de Bordeaux qui a fait déporter 1600 juifs français dans le camp de Drancy, et Drancy-Auschwitz c'était direct.
Mais aussi,
le 17 octobre 1961, avec près de un massacre de près de 200 Algériens poussés dans la Seine, qui sont morts, massacre beaucoup plus important que celui de Charonne, sur lesquels a travaillé un Jean-Luc Enaudi, sur lequel un Benjamin Stora a travaillé dans la gangrène et l'oubli, contre cet oubli, c'est mémoriel.
Et donc Louisette Hilarise s'inscrit, vous avez bien fait de le dire,
dans cette perspective,
François
deux ans après.
On lui laisse juste le temps de s'exprimer.
Exactement.
Ce sera le dernier son.
Vous ne voulez pas dissocier le bourreau et la victime? Enfin, mes personnels ont été des bourreaux. Moi, je suis victime. La raison pour laquelle, avec le temps, je transcende beaucoup de choses, malgré les sévices que j'ai subis. Je ne veux pas que la jeunesse soit empreinte de cette barbarie. J'aurais souhaité que cette jeunesse, qu'on assainisse cette situation lamentable. J'aurais souhaité que la jeunesse pense à autre chose, pense à la vie.
Mais alors, pour assainir cette situation, Louisette Hilarise,
oui.
Il y a plusieurs scénarios possibles. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que les procès judiciaires sont des moyens pour sortir un petit peu de ces impasses de la dette ou de l'impunité. On peut aussi penser à un scénario comme le pardon. Est-ce que lorsque vous disiez je suis prête à tourner la page, ça signifie je suis prête à pardonner?
Écoutez, je ne peux pas me substituer à toutes ces familles telles que la famille Audin. Je ne peux pas me substituer à toutes ces familles. Ils vont me dire au nom de quoi tu vas demander le pardon. Et puis, que veut dire le pardon si le gouvernement français ne fait pas amende honorable?
Alors, la famille Audin a continué. Michel Audin, fille de Maurice, a publié un très beau livre en 2013 sur son père.
La vie brève.
Et le pardon, maintenant, c'est le président de la République française qui vient le demander à Madame Audin, qui... Il lui dit, je vous remercie pas de m'accueillir.
Oui. Il
de m'accueillir,
dit...
mais elle, elle dit, voilà. Ah ben si, je vous remercie tout de même.
Et lui dit, vous n'avez pas à me remercier, c'est à moi à vous demander pardon. Alors, effectivement, il y a la reconnaissance, non seulement, alors qui avait été préparée par François Hollande lorsqu'il avait dit qu'en 2014, qu'Audin était mort durant sa détention. Donc, François Hollande reconnaissait en tant que président de la République déjà la supercherie qu'était la tentative d'évasion. Emmanuel Macron va plus loin, car là, il reconnaît la responsabilité de l'État et du politique d'avoir laissé les militaires agir. Ils avaient carte blanche. Et il reconnaît donc qu'il est mort des suites d'une répression. Alors, le dossier reste ouvert, à savoir qui a véritablement, de Charbonnier ou d'autres, étranglé ou poignardé délibérément Audin.
La saga de l'affaire Audin, si je peux utiliser ce mot, à l'intérieur de la saga des intellectuels français que vous analysez en deux volumes, c'est chez Gallimard. Merci à vous François Doss. Du coup, on n'a pas le temps de parler de la prématurité, enfin d'indiquer le thème de Mathieu Vidard qui sera celui-ci. Je le salue.